et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas ou tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent ?» On poursuit au chapitre 5, verset 21, s'il vous plaît. Jésus regagna en barque l'autre rive et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, toujours la même mer. Hein. Alors vint l'un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma fille ou ma fillette est à son extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte. Crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit, « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte. » Mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère et l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui se traduit « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Amen. On va prier quelques instants. Seigneur, à nouveau cet après-midi, nous sommes réunis autour de ta parole. Avec cette certitude que, Seigneur, tu as une parole pour chacun de nous, parce que tu connais nos réalités passées comme celles à venir ou celles dans lesquelles nous sommes en ce moment même. Et nous savons que, Seigneur, les paroles qui sortent de ta bouche sont vérité et nous voulons vraiment nous attendre à toi. Nos cœurs sont tournés vers toi afin de recevoir de toi les paroles dont nous avons besoin. Seigneur, c'est toi seul qui as les paroles de la vie. Parle au cœur de chacun d'entre nous afin qu'en repartant de ce lieu, nous soyons encouragés, restaurés, relevés, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce passage que nous venons de lire est, je crois, je ne sais pas si ce n'est pas le seul passage dans l'Écriture où les textes que nous avons lus, on n'a pas lu le démoniaque de Gadara, mais quand on lit ces quatre histoires, il nous parle donc de la toute-puissance de Dieu, que ce soit sur les éléments dans le premier texte que nous avons lu, sur l'adversaire, le diable, et sur son armée en ce qui concerne le démoniaque, et puis sur la maladie en ce qui concerne cette femme qui est touchée d'une maladie, et sur la mort, puisque là il va ramener à la vie l'enfant de cet homme. Voilà, c'est un peu un condensé qui nous parle de la toute-puissance de Dieu. Sur le premier passage dont nous avons lu tout à l'heure, et ce sur quoi je voudrais particulièrement m'entretenir avec vous cet après-midi, c'est que là, on voit donc un groupe de disciples dans une barque qui vont au-devant d'une tempête, voilà, alors qu'ils ont obéi au Seigneur. Et puis, on voit là ici une femme également qui, depuis plusieurs années, 12 ans, eh bien, elle traîne une maladie, elle cherche à être guérie, mais son état est allé de mal en pire, et en plus, sans rien recevoir, elle a tout dépensé. Donc, concernant une personne seule. Et puis, Jaïrus, chef de la synagogue, on pourrait dire aujourd'hui, pasteur, prédicateur, responsable dans l'église, père de famille, eh bien, lui aussi est touché par l'épreuve, par la difficulté dans cette situation qu'il traverse. Et nous voyons là que l'épreuve, la difficulté touche toutes les populations, sans exception. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'est pas touché par l'épreuve. Hein? Ici, un groupe de stagiaires, on va dire, voilà, en plein milieu de la tempête. Voilà. Pour dire que ce n'est pas parce qu'on a obéi à Dieu qu'on est épargné par les épreuves de la vie. Non, nous vivons sur la même planète que tous les autres, mais la différence, voilà, c'est là où se trouve la différence. La différence, c'est quand Jésus est dans la barque. Alors ici, dans le verset 36, il disait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il a quand même signalé qu'il y avait d'autres barques. Mais on ne sait rien en ce qui concerne les autres barques. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette tempête, cette bourrasque sur le lac? On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Mais je pense que le Seigneur, qui est celui qui a inspiré pour que cette portion de l'histoire nous soit rapportée, veut nous amener à nous centrer sur le fait que des disciples, des serviteurs de Dieu, des stagiaires, des chrétiens qui sont là, eh bien, ils ont obéi au Seigneur, mais ils vont dans la difficulté. Eux, ils ne le savaient pas, nous le savons puisque l'histoire, mais eux, quand ils sont montés dans la barque, quand ils ont obéi, hein, eh bien, ils ne s'imaginaient pas qu'ils vont au-devant d'une tempête. Comment se pourrait-il qu'en obéissant au Seigneur, on va dans l'épreuve et dans la difficulté? Mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, que si la différence, c'est la présence de Dieu dans notre vie. La barque peut nous parler de notre propre vie, de ce que nous vivons, de notre couple, de notre foyer, de notre maison, de ce que nous vivons chaque jour. La mer nous parle du monde instable, indomptable. On ne peut rien prévoir. Et dans ces temps-ci dans lesquels nous sommes, nous voyons que, sans vouloir critiquer aucune, mais que malgré les efforts qu'on fait, eh bien, le trouble s'installe partout dans le monde. Et il peut arriver que, donc, du fait que nous vivons dans ce monde, nous sommes touchés par le trouble qui se passe autour de nous. Mais ce qui va faire la différence, c'est notre attitude. Voilà. Ce n'est pas de la zen attitude, c'est la foi dans celui qui nous a donné une direction. Combien c'est important d'avoir sa vie conduite, dirigée par Dieu. Parce que lorsque l'épreuve vient à frapper notre vie, on peut donc tourner nos regards vers le Seigneur et chercher le secours auprès de lui. Je ne vais pas parler du fait qu'on s'est détourné, comme ça a été le cas de Jonas ou de bien d'autres, mais je parle du fait qu'on a obéi. Eh bien, la différence se trouve dans le fait qu'on a obéi et que Dieu est présent dans la barque de notre vie. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui est l'essentiel. Mais ce qu'on voit aussi également ici dans ce passage, c'est que nous l'avons déjà un petit peu parlé ce matin, que le Seigneur, en les envoyant dans la tempête, voulait les instruire certainement concernant la foi. Voulait les amener à faire face à leur propre foi et à réaliser la réalité de leur propre foi. Le Seigneur qui est là avec eux, qui leur a ordonné, ben, au moment de la tempête, eh bien, lui, il dort. Moi, je peux vous assurer que quand on est dans une barque, même, pas besoin de tempête, mais il souffle un petit peu, il n'y a pas moyen de dormir. Ce n'est pas possible. Quand la mer est démontée, ben, je peux vous dire que dans une barque, il n'y a personne qui dort. Comment donc se fait-il que le Seigneur dort alors que la barque est en train de prendre l'eau? Ce sont des situations que nous pouvons traverser nous aussi en tant que croyants, en tant que chrétiens, qui avons donné notre vie. Eh bien, nous pouvons traverser l'épreuve et on a l'impression, il peut y avoir l'impression des moments que Dieu ne nous entend pas. Il est absent. On crie. Mais on a l'impression que le ciel est d'airain, on n'entend rien, il n'y a pas de secours, et alors l'inquiétude nous gagne. Alors, ici, ils vont se tourner vers le maître, ils vont lui dire, « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ils pensent que Jésus va périr avec eux. Alors, dans la barque, il y a Pierre, Jacques et Jean qui sont des professionnels de la mer. Ils connaissent la mer. Ils connaissent la mer de Galilée parce qu'ils l'ont fait en long et en large. Hein? Ils ont certainement perdu des amis ou des êtres chers sur cette mer à cause des tempêtes. Et dans des endroits comme le lac de Tibériade, et comme ce sont des lacs intérieurs, des mers intérieures, entourées de montagnes, eh bien, les vents sont imprévisibles. On peut commencer à naviguer, c'est calme, c'est bon, c'est ensoleillé, et puis d'un seul coup, au milieu du lac, eh bien, le ciel s'assombrit, le vent souffle et la mer est démontée. Mais c'est aussi l'image de ce monde. On ne peut rien prévoir pour demain. On fait des projets, on lance des projets, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il adviendra de demain. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à vos projets, par rapport à votre obéissance avec Dieu, mais si vous êtes dans la difficulté, dans l'épreuve, alors que vous obéissez à Dieu, je crois qu'il faut vous sentir concerné par ce que nous sommes en train de lire. La réponse se trouve auprès de notre Dieu. Il est le maître des éléments. Et on peut critiquer le disciple. Hein? on pourrait les critiquer, dire voilà pourquoi, comment se fait-il, etc. Nous, c'est un peu facile pour nous de critiquer, peut-être. Hein. Mais je ne sais pas si on n'aurait pas réagi de la même façon, hein, si nous-mêmes, nous étions dans la barque, surtout quand la barque commence à prendre de l'eau, hein, et que on est, c'est la nuit, hein, qu'on ne voit pas le bord, je peux vous dire que c'est la panique, hein. Il n'y a pas de lumière. Maintenant, je veux dire que quand on a la mer, on voit facilement où se trouve la terre parce qu'il y a les lumières des villes, etc. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Hein? C'est noir partout. C'est la panique. Alors, je crois, frères et sœurs, qu'il n'y a qu'une chose à faire. C'est se tourner vers Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Hein? Même s'ils ont dit, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr. Hein? Mais nous en tirons également une leçon, frères et sœurs, c'est que dans l'épreuve, il nous faut apprendre à compter sur Dieu. Mais nous ne pouvons compter sur Dieu que dans la mesure où notre vie appartient à Dieu. Où nous avons remis notre vie entre les mains de Dieu. Où nous avons marché dans l'obéissance à Dieu. Mais si nous nous sommes lancés dans une aventure dans laquelle Dieu ne nous a pas conduits, il n'y a qu'un seul chemin pour retrouver la paix et le calme, c'est de se repentir. Retourner vers Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. Dans cette deuxième histoire, en ce qui concerne cette femme, je pense que ça peut être aussi l'histoire de beaucoup. Hein? Hein? On est dans l'épreuve depuis quelque temps. Déjà, ici ça a été brusque, ils ne se sont pas préparés, mais en ce qui concerne cette femme, ça fait 12 ans que ça traîne. Et là, elle entend parler de Jésus. Je crois que dans toute l'écriture, l'histoire de cette femme, et en particulier dans les évangiles, eh bien, c'est la seule où le Seigneur n'a pas eu à faire quelque chose, d'une manière volontaire, si on peut dire comme ça. C'est cette femme qui a déclenché. Si vous lisez les évangiles, vous verrez que toutes les fois, soit le Seigneur il a imposé les mains, il a donné une parole, etc. Et la chose s'est réalisée, le miracle s'est produit. Mais ici, en ce qui concerne cette femme, elle s'est simplement dit, si je puis toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Si je puis toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Qu'est-ce qui fait que cette femme pense que le fait de toucher le bord du vêtement du Seigneur, elle serait guérie? Elle a entendu parler de Jésus, et là, le fait d'avoir certainement reçu un témoignage a créé dans son cœur la foi pour être guérie. Mais cette femme ne pouvait pas venir comme Jaïrus l'a fait, parce que la loi ne le lui permet pas. Tous ceux qui sont atteints de cette maladie concernant cette femme doivent se tenir à l'écart parce qu'ils sont impurs en considération par rapport à la loi. Donc c'est ce qui fait que cette femme veut venir d'une manière incognito. Elle se dit, si je touche seulement, je serai guérie. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous aurez réagi, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir cette histoire, ce texte. Parce que on voit auparavant les disciples à qui le Seigneur il dit pendant, je ne sais pas ça fait combien d'années qu'ils sont avec le Seigneur, mais on a l'impression que c'est au début donc, du ministère de Christ, ils sont enseignés, instruits, etc. Et le Seigneur voulait trouver en eux la foi, il ne l'a pas trouvé. Et là, cette femme, elle a juste entendu un témoignage, pas entendre parler de Jésus. La foi est née dans son cœur. Comme quoi, frères et sœurs et amis, la foi, ce n'est pas quelque chose de compliqué. elle est à la portée de tous. Et ce qui triomphe de tout, c'est notre foi. C'est notre foi qui va nous permettre de traverser les épreuves. C'est notre foi qui va nous donner de triompher. C'est notre foi qui va nous donner d'aller de l'avant. Cette femme, elle a subi sa situation pendant 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait sans recevoir un minimum en retour de réconfort. Bien au contraire, son état est allé en empirant. Et vous savez comme moi, quand quelqu'un est malade depuis de longues années et que ça ne va pas beaucoup mieux, eh bien on dit, il n'y a pas beaucoup de solutions. Elle est à l'extrême. Vous voyez? Oui, on peut être à l'extrême. Où on ne sait plus. On ne voit plus l'issue. Comment se sortir? Cette femme, elle s'est dit, mon seul issue de secours, c'est Jésus. Dans le psaume qu'on a lu ce matin, je ne sais pas si c'est le psaume que le frère nous a lu, oui, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours, il se pose. Nous, parfois, on peut confronter à des montagnes impressionnantes. Quand on les regarde, on est... Enfin, il y a une expression chez nous, on dit, on est chaos d'avance. Hein? Et le psalmiste dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a créé la terre et les cieux. Alléluia. Si Dieu a créé la terre et les cieux, vous ne croyez pas que notre petit problème, c'est tout petit? Quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver, maintenant, on peut se tourner vers Christ. La foi de cette femme, son nom n'est même pas cité, elle n'a même pas dit son nom. Ben, je ne sais pas si ce n'est pas la personne qui a la plus grande foi dans la Bible. Et il y a eu une interrogation que je me suis dit, je ne sais pas comment vous... Mais comment se fait-il que cette femme, à l'insu du Seigneur, on va dire comme ça entre guillemets, elle vient, elle touche ses vêtements et puis elle est guérie. Il y a une puissance qui sort du Seigneur et qui pénètre cette femme, qui la traverse et elle est libérée, elle est délivrée de son mal. Je me suis dit que le Seigneur, il sait. Vous êtes d'accord avec moi, frère et soeur? Tant pis, même si vous n'êtes pas d'accord, mais je suis d'accord avec moi-même, avec ce que je dis. Voilà. Pour dire que le Seigneur nous instruit et nous enseigne au travers de la foi de cette femme, afin que vous et moi, nous sachions. Que si cette femme, avec cette petite foi qu'elle a, elle a été délivrée, libérée, nous savons que Christ ne fait exception de personne. Tout homme, homme, femme, enfant, vieillard, à l'extrême ou pas, qui s'approche de lui par la foi, eh bien, il peut obtenir la guérison, la délivrance. Alléluia. Et ça veut dire que, frères et sœurs, il y a des dispositions que le Seigneur a prises pour que nous puissions, j'allais dire en disposer, mais ce matin on a parlé de, et tout à l'heure encore le frère dans les champs au niveau de la croix, le Seigneur a déjà tout accompli à la croix. À la croix, le Seigneur, par son sacrifice, nous a ouvert les portes du ciel. Il met à notre disposition les promesses de Dieu qui sont ici dans la parole et qui sont accessibles à chacun d'entre nous. Et on ne va pas le lire, mais vous pouvez regarder dans Nombre chapitre 15, je ne sais plus c'est exactement le verset, je crois que c'est les derniers versets du chapitre 15 des Nombres, où il nous parle, c'est Dieu qui dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de se coudre des franges au bord des vêtements avec des couleurs violet ou bleu pour se rappeler la parole de Dieu, les ordonnances de Dieu. Alors quand on met ça en lumière avec l'histoire que nous venons de raconter, nous pouvons donc faire cette application que quand cette femme elle s'est approchée, elle a touché les bords du vêtement du Seigneur, elle s'est accaparée les promesses de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, quand quelqu'un vous fait un cadeau, est-ce que vous demandez la permission de prendre le cadeau? S'il vous donne. Hein? Est-ce que vous lui dites, je peux prendre le cadeau? Non, tu le prends. Hein? Vous le prenez. Hein? Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, les promesses qui sont ici sont pour vous et moi. Et si nous manifestons la foi de cette femme, nous vivons la même expérience. Alléluia. Parfois, excusez-moi, on supplie le Seigneur de donner, mais il a déjà donné. Voilà. On va jeûner pour obtenir, mais le Seigneur, il a déjà donné. Il a déjà tout accompli à la croix. Voilà. Alors, frères et sœurs, je crois que c'est une foi simple. Si le Seigneur a dit, alors je crois. Et cette femme, le Seigneur va... Si le Seigneur, il a demandé qui m'a touché, mais vous savez aussi bien que moi, frères et sœurs, que le Seigneur, il sait exactement qui c'est qui l'a touché. Il y a plein de personnes qui l'ont touché, mais il n'y a qu'une seule qui a eu un toucher particulier. C'est pour ça que Pierre et les disciples diront, mais Seigneur, tout le monde te touche, tout le monde te presse, tu demandes qui m'a touché? Je ne sais pas combien on est ce soir à la réunion. Mais nous sommes à portée de main de Christ. Et chacun d'entre nous, nous pouvons, par rapport à la situation que nous vivons, toucher par la foi les promesses accomplies par le Seigneur et le sacrifice de Christ à la croix. J'aime souvent le rappeler, frères et sœurs, que le sacrifice de Christ à la croix, c'est pour nous. Dieu a tout pouvoir et toute autorité de tout temps sur le péché, sur le mal, sur le diable, sur son armée, etc. Mais cette victoire, elle est pour vous et moi. Alors s'il a remporté, s'il a quitté son ciel de gloire pour donner sa vie, pour amener le royaume de Dieu à notre portée, frères et sœurs, notre foi nous permet d'y entrer. Cet homme, Jaïrus, il a dû prendre son courage à deux mains, parce qu'à cette époque-là, les chefs de synagogue, les pharisiens et compagnie, ils sont tous contre Jésus. Hein? Mais cet homme, dans cette situation, il s'est venu se jeter aux pieds du Seigneur pour lui demander grâce pour sa fille. Voilà. Et pendant qu'ils étaient en chemin, voilà l'histoire de cette femme qui se manifeste. On pourrait dire, mais la fille, elle est décédée, elle est morte à cause de... Si le Seigneur était allé avant, il aurait pu aller avant parce que la fille, elle est plus à l'extrême et puis revenir pour cette femme. Voyez, nos priorités, Dieu exprime ses priorités d'une autre manière que la nôtre. Mais il va dire à Jaïrus, parce qu'il y en a qui vont dire, mais c'est trop tard. Vous voyez? C'est trop tard. C'est cuit. C'est mort. C'est fini. C'est terminé. Mais Jésus, verset 36, il dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte. crois seulement. Alléluia. Vous savez, quand on est dans la crainte, eh bien, on est déboussolé. On ne sait pas comment faire. Et le Seigneur va rassurer cet homme pour dire, sois sans crainte, crois seulement, garde la foi. Sois sans crainte, garde la foi. Et je crois qu'on peut crier vers Dieu pour dire, Seigneur, je veux garder la foi. Dans cette situation que je vis, que je traverse, et nous savons que les paroles du Seigneur sont pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, parce que demain, qui sait ? Puisse l'Esprit Saint nous rappeler ces choses. Hein? Crois seulement. Et parce que cet homme va croire, je ne sais pas quelle était la distance pour aller chez lui, mais il n'est pas trop tard. Et vous savez, dans notre vie, il y aura toujours de ceux qui découragent, pour ne pas dire les oiseaux de mauvais augure, pour nous décourager, on est abattu dans notre foi, etc. Rappelons-nous cette parole du Seigneur. Ne crains pas. Crois seulement. Et lorsque nous restons dans cette attitude de croire, alors le miracle s'accomplit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce qui va se passer, ce que je veux souligner également ici, c'est que tous ceux qui n'ont pas cru et qui se sont moqués, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas assisté. Le Seigneur a dit, voyez, voilà, l'incrédulité, la moquerie, etc., nous met en dehors du miracle de Dieu. Mais la foi nous fait entrer dans le monde du miraculeux. Et le temps des miracles, ce n'est pas révolu. C'est pour nous encore aujourd'hui. Même s'il y a une avancée au niveau médicinal, technologique et toutes les avancées qu'il peut y avoir, etc., la foi nous donne d'entrer dans le miraculeux. Et il va mettre dehors tous ceux qui étaient là. Et il n'y aura que témoin que les disciples qui l'ont accompagné et les parents. Et là, ils vont vivre le miracle. Vous savez, ce n'est pas la même chose de vivre le miracle, d'avoir été témoin d'un miracle et d'avoir entendu, il s'est passé. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même intensité. Et je crois que ce que Dieu veut pour notre vie, c'est de nous donner d'espérer en lui chaque jour, dans les grandes choses comme dans les petites choses. Mais ce que je voulais surtout souligner également, ce que j'ai omis de le dire tout à l'heure, en ce qui concerne cette femme, il va lui dire, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. » Dites-moi, elle a été guérie ou pas guérie? Quand le Seigneur lui a dit cette parole, elle était déjà guérie. Alors, pourquoi le Seigneur lui dit, va en paix, ta foi t'a sauvé et sois guérie de ton mal, si elle est déjà guérie? C'est qu'il y a un autre mal dont elle avait besoin d'être guérie. Amen. Oui, frères et sœurs. La guérison physique, dans les meurtrissures de Christ, nous trouvons la guérison. Mais il y a une guérison plus importante qui conditionne notre éternité. Ce sont nos péchés. Et nous avons besoin de vivre le pardon de Dieu pour en être libérés. Nous l'avons vu tout à l'heure au travers des chants. Christ a payé le prix pour que nous en soyons libérés, délivrés. Mais c'est la foi qui nous donne d'avoir accès. Si tu crois, eh bien aujourd'hui, tu peux vivre le pardon de Dieu. Peut-être es-tu de ceux qui se sont éloignés de Dieu depuis un certain temps et on revient dans la maison de Dieu. Eh bien, le Seigneur a dit en ce qui concerne le fils prodigue, le père, préparez-le vos gras. Il n'a pas dit préparez un de vos gras. Préparez le vos gras. On va faire la fête. C'est pour nous parler du fait que quand il y a un seul pécheur qui se repent, là-haut dans le ciel, c'est la fête. Hein? C'est une joie immense qui est exprimée. Voilà. Eh bien, puissions-nous cet après-midi, quelle que soit notre situation, que ce soit dans l'épreuve, comme ça a été le cas des disciples, alors qu'on est dans l'obéissance, que ce soit comme cette femme, ça fait des temps qu'on est dans la galère, on ne sait pas comment faire, ou que ce soit comme ce père qui est, dont la fille est à l'extrême. Cet après-midi, on peut s'approcher de Dieu, lui faire connaître. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous croyons que tu n'as pas changé et que tu es celui qui ne fait exception de personne. Et que cet après-midi encore, ce que tu as accompli il y a 2000 ans, tu veux le faire encore aujourd'hui. Parce que tu n'as pas changé, parce que tu demeures le même, parce que si tu as permis que ta parole soit consignée, c'est afin que nous sachions la grandeur de ton amour et ton désir de nous libérer, de nous délivrer, de nous guérir, de nous sauver, de nous relever, de nous restaurer, de nous rétablir pleinement, Seigneur. Toi qui connais les cœurs, les pensées, les réalités de chacun, Seigneur, donne à nos cœurs de ne pas résister à ta parole et à ton esprit, mais de l'accueillir. Comme nous l'avons vu ce matin, Pierre qui t'accueille dans sa barque, Seigneur, accorde grâce, s'il te plaît. Je te le demande dans le nom de Jésus.